Permettez-moi, Philippe Landru, de prendre le problème à l'inverse, puisque Jean Leclerc consacre cette semaine d'histoire vivante au traumatisme de guerre et particulièrement de la guerre de 14. J'imagine que la guerre de 14, dans les cimetières, vous en avez une trace particulièrement lourde et peut-être particulièrement parlante, non ?
Alors, elle est extrêmement importante. Elle est même beaucoup plus importante que la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons qu'on peut en partie expliquer. Elle est très très forte, cette présence. Elle le sera de plus en plus parce que il est vrai que dans l'avenir, il y aura de moins en moins de choses qui témoigneront de la Première Guerre mondiale. Et les cimetières, si on arrive à les conserver, ça en fera partie. Donc elle est très présente. Elle est présente dans tous les cimetières, ou quasiment tous, mais elle n'est pas présente de la même manière, par contre. Parce que si vous êtes dans un cimetière, dans une banlieue ouest plutôt privilégiée, plutôt bourgeoise de Paris, ou si vous êtes dans un petit cimetière de banlieue parisienne aussi d'ailleurs, mais plus ouvrière, plus populaire, vous n'allez pas du tout avoir le même témoignage de la guerre.
Et puis j'imagine que vous avez le témoignage des épisodes de la guerre, parce qu'on sait qu'il y a eu des combats particulièrement violents ici ou là.
Alors, les épisodes de la guerre, il faut effectivement avoir une... Soit on est vraiment un spécialiste, on est un amateur de tous les champs de bataille de la guerre, et dans ces cas-là, on peut sans aucun doute reconstituer des choses intéressantes. On peut même certainement aller très très loin. Par exemple, on a souvent les régiments qui vont être cités sur les pierres tombales. Donc on peut repérer très facilement d'où la victime venait et où est-ce qu'elle est décédée. Généralement, c'est toujours marqué, hein, mort pour la France, à tel endroit. C'est même souvent très très précis. On sent bien qu'il y a eu un déracinement, parce que le mot n'est pas exact, mais on sent bien qu'il y a eu une mort brutale et qu'il faut donner le plus d'indices possible de la localisation où a eu lieu la mort, en fait. Souvent, évidemment, ça n'a rien à voir avec le lieu de naissance. On va trouver des morts de la guerre dans toutes les régions de France. Et bien évidemment, pour la plupart, ils sont morts à peu près aux mêmes endroits. Donc on va avoir des localisations très précises. On va avoir les bataillons ou les régiments auxquels ils appartenaient, le grade qu'ils avaient, tantôt caporal ou tantôt soldat de deuxième classe, etc. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la guerre, à la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, parce qu'on peut... ça se fait, hein, évidemment. Il y a des sites qui s'intéressent au recensement des morts de la Première Guerre mondiale et qui vont repérer dans chaque cimetière de France progressivement toutes les victimes qui existent. Sachant que c'est de plus en plus difficile à faire parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de reprises de tombes et il y a des gens qui sont morts durant la Première Guerre mondiale dont les tombes disparaissent. Mais on va avoir dans les cimetières quand même, c'est l'endroit où on aura le plus de témoignages. Je rajouterai une dimension, évidemment. Il y a un autre élément qui vient de la Première Guerre mondiale dans les cimetières généralement, c'est les monuments aux morts. La plupart de nos monuments aux morts en France datent des années 20, en gros. Hein. Il y a eu une énorme production de monuments aux morts dans tous les villes et villages de France. Chacun devait avoir le sien. Et là aussi, c'est intéressant, parce qu'en dehors de l'identité de toutes les victimes qui sont portées dessus, vous avez aussi des sculpteurs, alors plus ou moins locaux, plus ou moins connus d'ailleurs, qui ont œuvré pour la construction de monuments aux morts. Et puis évidemment, vous avez différentes représentations de la guerre, et là aussi, il y a des gens qui s'intéressent à ça. C'est leur dada, ils répertorient tous les monuments aux morts, et vous en avez certains qui délivrent des messages différents, quoi.
La Première Guerre mondiale a été une boucherie, c'est un lieu commun de le dire maintenant. Est-ce qu'il en reste en quelque sorte des traces dans les inscriptions que vous pouvez voir ?
Bah, l'aspect boucherie, vous le mesurez très facilement si vous allez visiter, par exemple, un cimetière de banlieue parisienne ouvrière. Je pense, par exemple, au cimetière de Pantin, ou vous allez dans des cimetières plus petits, mais qui sont généralement très populaires. Bah, c'est pas difficile. Vous avez quasiment une tombe sur trois. Une tombe sur trois, vous avez un mort de la guerre dessus. Donc là, l'aspect boucherie, il est évident, quoi. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des différences selon les endroits. Vous aurez très peu d'officiers, voire de sous-officiers. Vous aurez essentiellement des secondes classes, des caporaux, à la rigueur. Mais vous n'aurez pas d'officiers, ou très peu, quoi. Les généraux de corps d'armée, les lieutenants, les colonels, etc., vous les trouvez aussi, bien sûr, mais pas dans les mêmes cimetières. Donc, c'est pas la même guerre, en fait. Donc, si vous allez dans un cimetière, plutôt dans une ville plutôt bourgeoise, bah là, vous aurez évidemment beaucoup plus d'officiers et beaucoup moins de secondes classes. Donc, la guerre, elle est déjà présente de cette manière-là. Ensuite, il y a cette autre manière extrêmement émouvante, évidemment, c'est les photos, avec l'aspect standardisé que ça a, d'ailleurs, hein, cette espèce de médaillon ovale dans lequel vous avez la photo en noir et blanc, en tenue de régiment. Ça aussi, ça témoigne de la guerre et de toutes les victimes. Vous avez parfois les décorations qui sont portées, voire qui peuvent être gravées dans le bronze, ou qui, en tout cas, qui sont indiquées, ou voilà. Et puis, plus rarement, mais ça peut arriver, vous avez carrément tout un discours sur la tombe qui va alors soit être la citation, si jamais le mort a reçu une citation, donc on va avoir la citation qui va être reproduite avec faite par le général machin ou le général voilà. Et puis parfois vous pouvez avoir d'autres témoignages, ça peut être des témoignages familiaux. C'est beaucoup plus rare parce que c'est quand même extrêmement conformiste la manière de célébrer les morts de la guerre. Faut pas oublier qu'on est dans les années 20 quand même, donc on fait pas n'importe quoi. Et puis il y a le conformisme social qui fait que ben on va avoir tendance à faire comme les voisins, comme les proches. Beaucoup plus rarement, vous pouvez avoir d'autres éléments. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver que vous ayez carrément des souvenirs du soldat qui vont être scellés dans la tombe ou qu'on va indiquer qu'il a été habillé dans son costume militaire ou des choses comme ça. Mais c'est plus rare.
J'ai eu l'occasion d'être en contact avec vous, Philippe Landru, à l'occasion d'une inscription sur laquelle j'étais tombé par hasard et qui était « Mort pour rien ». C'était pendant la guerre de 14. Là, c'est une trace d'une certaine forme de colère par rapport à ce qui était en train de se passer.
Ah, tout à fait. Mais alors ça, c'est vraiment rare. Hein. Sous cette forme-là, qui est une forme à la fois très violente et pleine de détresse, en fait, hein, c'est les deux à la fois, c'est le seul exemple que je connaisse aussi clair. Ce qui serait intéressant de savoir exactement, c'est que cette plaque a été évidemment mise par la famille. Et à quel moment ça a été mis? Est-ce que ça a été mis sensiblement après le rapatriement du corps ou est-ce que ça a été mis beaucoup plus tard? Il fallait beaucoup d'audace pour oser mettre ça sur une tombe. Après la fin de la Première Guerre mondiale, il y a le culte du mort, évidemment, un mort pour la patrie. Donc on est à la fois désespéré d'avoir perdu un proche, mais en même temps, il n'est pas mort pour rien. Sous-entendu, il a œuvré pour quelque chose. Alors après, on essaye de s'en persuader, sinon c'est totalement intolérable, quoi. Mais il y a quelques familles, a priori, qui sont pas tombées là-dedans, quoi, et qui donnent la réalité crue, ou du moins telle qu'ils la conçoivent, hein, mort pour rien. Mais j'essaye d'imaginer ce que pouvait représenter, si jamais cette plaque date des années 20, j'essaye d'imaginer ce que pouvait représenter cette plaque pour les gens qui passaient dans le cimetière, notamment les familles d'autres morts. Ça devait pas être facile, ni pour les uns, ni pour les autres. C'est quelque chose... Encore une fois, quand vous êtes face à une tragédie pareille, souvent, le conformisme, c'est aussi un moyen de faire le deuil. C'est-à-dire qu'on va tous passer par le même type d'enterrement, avec la même couronne, avec le même drapeau français sur le cercueil. On va passer par les mêmes photographies, avec les mêmes représentations. C'est évidemment très conformiste, mais c'est aussi une manière de faire le deuil. Et refuser cela, finalement, et affirmer de manière extrêmement violente, encore une fois, une autre opinion qui, pour le coup, est tout à fait en décalage, ça nécessitait certainement beaucoup de courage.
Alors, Philippe Landru, vous nous avez dit à différents moments de cet entretien que vous écriviez des articles. Il faut dire en effet que vous êtes le président directeur général et le rédacteur en chef d'un site internet dont d'ailleurs vous allez me rappeler les coordonnées, parce qu'au fond, il y a une diffusion de tout ce travail.
Absolument, bah oui. Alors, j'ai effectivement un site internet. Il va fêter ce mois-ci, si ce n'est peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. En tout cas, ce mois-ci, c'est sûr, il fête ses 6 ans. Donc, il commence à avoir de la bouteille maintenant pour un site internet.
Il s'appelle comment?
Il s'appelle donc www.landrucimetière, tout attaché avec un S à cimetière et sans accent. Sur cimetière pour des raisons voilà.
Donc on rappellera que Landru s'écrit LANDRU pour qu'il n'y ait pas de
LANDRU absolument landrucimetière.fr. Sachant que Landru c'est mon nom hein, c'est pas du tout un jeu de mots un jeu de mots graveleux ou particulièrement cynique, c'est tout simplement mon nom quoi.
Et alors donc ceci signifie que il y a toute une curiosité publique de gens qui viennent vous voir.
Oui, j'ai pas mal de monde qui vient me voir. Environ 2000 visites par jour. Donc ça fait du monde quand même.
Et alors, mais dites-moi, vous êtes, est-ce qu'il y a une sorte d'international des passionnés de cimetières qui se passent des trucs, qui échangent des informations à travers l'Europe?
Oui, il y a une internationale des cimetières. Alors évidemment, je dirais qu'il y a plusieurs cercles. Il y a des cercles nationaux, on va dire. Et puis ensuite, il y a effectivement une internationale. Il y a des sites qui ont pignon sur rue et qui vont traiter d'un cimetière particulier ou du patrimoine funéraire d'un État en particulier. Mais il existe effectivement une véritable internationale des tafophiles, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle.
Tafophiles? Pourquoi tafophiles? Ça veut dire quoi?
Alors tafophiles, parce qu'avant on nous appelait les nécrophiles, et les nécrophiles ça correspond absolument pas à notre passion. On n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a rien de spécialement morbide. Enfin certains le sont peut-être, mais en tout cas la plupart ne le sont pas, et les cadavres, on n'a pas spécialement d'appétence pour les cadavres. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les tombes, c'est pas les corps. Donc tafos, c'est la tombe en grec. Et donc Tafofil, ça prenait plus de sens, quoi. On est des amateurs de tombes et pas des amateurs de morts, quoi. Donc c'est comme ça qu'on nous appelle. Et il y a effectivement, c'est un néologisme, mais qui s'implante de plus en plus. On nous appelle les nécrosophes aussi, hein, ceux qui écrivent sur la mort. Et ceux qui étudient la mort, voilà. Donc, le net est évidemment un formidable moyen de communiquer, parce que sinon, on serait chacun un peu isolés les uns les autres.
Est-ce que ce travail que vous faites est destiné aussi à une certaine forme de prolongement académique, je veux dire dans les universités? Est-ce que vous êtes approprié votre travail par tous ceux qui recherchent sur la guerre de 14?
Votre public, vous n'allez pas aller le chercher, c'est eux qui vont venir. Alors évidemment, plus votre site est référencé, le mien est très bien référencé. Donc évidemment, ça vous amène un public très large qui vient de partout. Et c'est là que vont commencer à se faire les échanges. Les gens voyant ce que vous leur proposez, enfin, quand vous êtes un universitaire, quand vous avez fait des études, quand vous savez comment travailler, vous voyez bien quand il y a du travail et il y a du sérieux derrière quelque chose ou quand il n'y en a pas. Donc c'est plus comme ça, en fait, c'est un travail de fourmi, mais en même temps c'est un travail passionnant. C'est comme ça que vous forgez votre légitimité et c'est comme ça que vous commencez à intéresser des gens qui, a priori, ne seraient pas venus vous voir parce que eux, ils sont pas fans de cimetières. C'est aussi une pédagogie, la tafophilie, on va dire, parce qu'évidemment, pour quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, se balader, passer son temps dans les cimetières, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Là où réside la pédagogie, c'est expliquer que le cimetière, c'est une porte d'entrée dans la culture, comme il en existe plein d'autres. Au même titre qu'aller dans un musée et aller visiter différentes vitrines et voir des objets, c'est exactement la même chose, simplement, c'est une porte d'entrée qui est peut-être moins classique, moins connue, mais qui est tout aussi riche et vraiment passionnante, parce que en plus, au bout d'un moment, au bout de 25 ans, évidemment, vous commencez à avoir des fils se créer, non plus à l'intérieur des cimetières, mais même entre les différentes régions, etc. Donc, ça peut aller très très loin. Dans l'absolu, c'est une passion qui peut n'avoir aucune fin, quoi. Déjà, rien qu'avec la France, si je m'amuse à faire le tour des, non pas 36 000 cimetières, mais il y en a bien plus que cela. Déjà, j'ai pas mal de boulot sur...
Donnez-moi le chiffre du nombre de cimetières que vous estimez avoir visités. Et par ailleurs, la sphère géographique, car il me semble que vous ne vous êtes pas limité à la France.
Alors, effectivement, j'essaie de recenser les cimetières que j'ai fait un petit peu sérieusement, parce qu'après, il y a tous les autres que je faisais un peu en dilettante. J'ai dépassé les 1500 cimetières. Donc on va vers les 1600, je crois. Il faudrait que je regarde le dernier. Parce que vous voyez, ça peut aller très vite, parce que dernièrement, j'ai passé une semaine en Touraine et j'en ai fait une soixantaine. Donc,
ouh là là.
Donc ça peut aller... disons que j'ai... Alors évidemment, vous savez, quand je pars en vacances, pour entrer dans les détails, je peux pas imposer ça à mes amis ou à ma famille. Donc en fait, je me garde des journées pour moi. Et alors là, je fais vraiment de l'abattage, il n'y a pas d'autre mot. Je fais cimetière après cimetière, je fais des photos, je ramène 1500, 2000 photos de cimetière. Et puis ensuite, je fais le tri, évidemment. Donc c'est comme ça que je peux en voir autant. Donc j'ai fait, on va dire, 1500, 1600 cimetières. J'en ai fait dans le monde entier. Dans toute l'Europe, j'ai fait des cimetières. Aux États-Unis aussi. J'aime bien faire des choses qui sont vraiment pas classiques. Par exemple, aller voir un cimetière en Inde. Donc si vous voulez le pays de la crémation, vous allez quand même aller au cimetière. Ou alors vous allez dans des endroits où tout le monde rêve d'aller, enfin pour toute autre raison, et puis vous allez au cimetière. J'ai un exemple comme ça que je raconte parce que ça me fait rire. Je vais voir le cimetière de Grand Canyon, par exemple. Alors, je vais voir aussi le Grand Canyon, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de touristes qui vont visiter le cimetière, quoi. Et puis donc les États-Unis et puis d'autres endroits, je suis en train de chercher là parce que d'un seul coup, enfin essentiellement sur l'Europe, parce qu'évidemment vous avez des aires géographiques dans lesquelles lorsque c'est la crémation qui compte, etc., c'est sûr que vous avez moins de choix. Enfin, vous avez des cimetières dans tous les pays du monde quand même.
Alors, je vais vous laisser conclure, Philippe Landru, en rappelant les coordonnées de votre site internet, parce que j'imagine que beaucoup de ceux qui sont en train de nous écouter auront eu la curiosité de vouloir poursuivre avec vous, d'une certaine manière, l'entretien que nous venons d'avoir. Donc, les coordonnées sont...
Alors, www.landrucimetière, au pluriel, sans accent, Landru, L-A-N-D-R-U, tout attaché, .fr.